5 to 6 p.m. on the radio network of the CRTV, a presentation of Manka Aambe and Clarice Njanga, our top stories.
Identité, bientôt la fin du calvaire pour de nombreux Camerounais. En exécution des très hautes directives du chef de l'État, la délégation générale à la Sûreté nationale invite les citoyens concernés à déposer une requête assortie de coordonnées dans les démembrements régionaux de la police. Depuis l'annonce du 10 janvier, les postes d'identification sont pris d'assaut par les usagers. Sur le déroulement des opérations, reportage à suivre dans le 17-18.
The foundation stone for a new East Regional Delegation of ILECAM to the tune of 700 million CFA francs has been laid, with the Director General of Elections at ILECAM, Eric Usose, prescribing diligence and efficiency to the project manager. The new building is intended to ameliorate the working conditions of staff as they look forward to registering 35,000 new voters on electoral registers before the presidential election is convened.
Crise climatique, le monde suffoque, le réchauffement de la planète continue ses ravages et les populations font preuve de résilience. Incidence de la sécheresse dans le nord où l'on multiplie les astuces pour braver le phénomène. Reportage dans la partie magazine de cette édition.
The budget of the Southwest Regional Assembly in 2025 stands at more than 4 billion CFA francs, which will be dedicated to enhancing the development strides in the region. During a session today that was dedicated to examine and vote the budget, the governor of the Southwest region called on contractors to vie only for projects that they can deliver in record time. And those are our top stories.
Nous recevons dans ce studio le directeur des rédactions radio, Valérie Dikosumaru. Bonsoir.
Bonsoir, Clarisse.
Nous accueillons également le directeur adjoint, George Kelong. Good afternoon, George.
Good afternoon, Clarisse.
Vous avez des décrets du président de la République, Valérie.
Décret numéro 2025-12 du 14 janvier 2025, habilitant le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire à signer avec la Banque africaine de développement un accord de prêt d'un montant de 39,629 millions d'euros, soit environ 26 milliards de francs CFA, pour le financement du projet d'aménagement des routes de désenclavement de la zone industrielle portuaire de Kribi par ZIC, tranche 2. Le président de la République décrète. Article 1er. Le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire est habilité, avec faculté de délégation, à signer avec la Banque africaine de développement un accord de prêt d'un montant de 39,629 millions d'euros, soit environ 26 milliards de francs CFA, pour le financement du projet d'aménagement des routes de désenclavement de la zone industrielle portuaire de Kribi par ZIC, tranche 2. Article 2. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 14 janvier 2025, signé le président de la République, Paul Biya.
Decree number 2025/012 of the 14th of January 2025 to authorize the Minister of Economy, Planning and Regional Development to sign with the African Development Bank a loan agreement for an amount of 39.629 million euros or approximately 26 billion CFA francs to finance the project to develop access roads to the industrial and port area of Kribi per ZIC Phase 2. The President of the Republic hereby decrees as follows. Article 1. The Minister of Economy, Planning and Regional Development is authorized with powers of delegation to sign with the African Development Bank a loan agreement for an amount of 39.629 million euros or approximately 26 billion CFA francs to finance the project to develop access roads to the industrial and port area of Kribi per ZIC Phase 2. Article 2. This decree shall be registered, published according to the procedure of urgency and inserted in the official gazette in English and French. Yaoundé, the 14th of January 2025. Signed, Paul Biya, President of the Republic.
décret numéro 2025/14 du 14 janvier 2025 portant nomination d'un inspecteur général au ministère de la Santé publique. Le président de la République décrète, article 1er, est à compter de la date de signature du présent décret, nommé au poste ci-après au ministère de la Santé publique. Inspection générale des services médicaux et paramédicaux. Inspecteur général, M. Bitang Amafok Louis Joss, médecin, précédemment directeur du centre des urgences de Yaoundé, en remplacement de M. Zoa Nanga Yves Mathieu, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Article 2, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 14 janvier 2025, signé le président de la République, Paul Biya.
Decree number 2025/014 of the 14th of January 2025 to appoint an inspector general at the Ministry of Public Health. The President of the Republic hereby decrees as follows. Article 1. The undermentioned person is with effect from the date of signature of this decree appointed to the following position at the Ministry of Public Health. General Inspectorate of Medical and Paramedical Services. Inspector General, Mr. Bitang Amafok Louis Joss, Medical Officer, previously Director of the Yaoundé Emergency Center, in replacement of Mr. Zoa Nanga Yves Mathieu, who has been placed on retirement. Article 2, the appointee shall be entitled to the various benefits provided for by the regulations in force. Article 3, this decree shall be registered, published according to the procedure of urgency, and inserted in the official gazette in English and French. Yaoundé, the 14th of January 2025, signed Paul Biya, President of the Republic.
Décret numéro 2025/13 du 14 janvier 2025 portant réorganisation et fonctionnement du Fonds de développement des filières cacao et café. Le président de la République décrète, chapitre 1, disposition générale, article 1er, le présent décret porte réorganisation et fonctionnement du Fonds de développement des filières cacao et café, en abrégé FODEC, et ci-après désigné le Fonds. Article 2, alinéa 1, le Fonds est un établissement public à caractère économique et financier, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Alinéa 2, son siège est fixé à Yaoundé. Il peut être transféré en toute autre localité du territoire national par décret du président de la République. Alinéa 3, des antennes, bureaux ou représentations peuvent, en tant que de besoin, être créées à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national par résolution du conseil d'administration. Article 3, alinéa 1. Le fonds a pour mission d'assurer le financement et le paiement des prestations relatives à l'appui et à la relance des filières cacao et café, au soutien à la recherche appliquée sur ces produits et à l'amélioration de leur qualité, à l'appui au programme de formation et d'information des opérateurs des filières cacao et café, à la promotion de la transformation et de la consommation locale du cacao et du café. Alinéa 2, le fonds peut exercer toute autre opération financière, commerciale, mobilière et immobilière, se rattachant directement ou indirectement aux activités définies à l'alinéa 1 ci-dessus ou de nature à favoriser le développement des filières cacao et café. Article 4. Le fonds peut contribuer au financement des opérations spéciales et stratégiques de l'État après autorisation préalable du président de la République. Chapitre 2 de la tutelle. Article 5, alinéa 1. Le fonds est placé sous la double tutelle technique du ministère en charge du commerce et du ministère en charge de l'agriculture. Alinéa 2, les deux tutelles techniques ont pour objet de s'assurer que les activités menées par le fonds sont conformes aux orientations des politiques publiques du gouvernement dans le secteur concerné, sous réserve des compétences reconnues au conseil d'administration. De la conformité des résolutions du conseil d'administration aux lois et règlements, ainsi qu'aux orientations des politiques sectorielles. Article 6, alinéa 1, le fonds est placé sous la tutelle financière du ministère en charge des finances. Alinéa 2, la tutelle financière a pour objet de s'assurer de la conformité des opérations de gestion à incidence financière du fonds, à la réglementation sur les finances publiques d'une part et de la régularité a posteriori des comptes d'autre part, de la régularité des résolutions du conseil d'administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des plans de performance du fonds au programme sectoriel. Article 7, alinéa 1. Les tutelles techniques et financières, en liaison avec le conseil d'administration, concourent au suivi de la performance du fonds. Alinéa 2, le fonds adresse aux tutelles techniques et financières tout document et information relatif à sa gestion, notamment les projets de performance, les plans d'action, les rapports annuels de performance, le rapport du contrôleur financier, les comptes administratifs et de gestion, l'état à jour de la situation du personnel et la grille salariale. Alinéa 3. Le ministre chargé de la commercialisation du cacao et du café, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des finances adressent chacun en ce qui le concerne au président de la République un rapport annuel sur la situation du fonds. Chapitre 3. De la qualité d'ordonnateur. Article 8. Au sens du présent décret, la qualité d'ordonnateur des dépenses du fonds est reconnue en responsable ci-après. Le ministre chargé de la commercialisation du cacao et du café, en ce qui concerne d'une part l'appui au programme de formation et d'information des opérateurs de la filière, des filières cacao et café, la consommation locale du cacao et du café, et d'autre part la promotion et la défense d'un label de qualité pour le cacao et le café, ainsi que la recherche des niches de marché pour ces produits. Le ministre chargé de la recherche scientifique, en ce qui concerne le soutien à la recherche appliquée sur ces produits et à l'amélioration de leur qualité. Le ministre chargé de l'agriculture, en ce qui concerne l'encadrement des producteurs et la vulgarisation des itinéraires techniques, ainsi que des travaux d'aménagement des pistes cacaoyères et caféières. Le ministre chargé de l'Industrie, en ce qui concerne la promotion de la transformation locale, le directeur général du fonds, en ce qui concerne le budget de fonctionnement et l'équipement du fonds, le directeur général du fonds, sur avis conforme du conseil d'administration, en ce qui concerne les prestations d'audit technique, comptable et financier. Article 9, alinéa 1. Dans le cadre du financement des opérations spéciales et stratégiques de l'État, visé à l'article 4 ci-dessus, le conseil d'administration du fonds entérine, par résolution, le financement des dites opérations. Alinéa 2, la qualité d'ordonnateur des dépenses relatives aux opérations visées à l'alinéa 1 ci-dessus est reconnue au directeur général du fonds. Article 10, chaque ordonnateur est chargé, dans le cadre de son domaine de compétences, notamment de l'étude et de l'élaboration des programmes annuels et pluriannuels des travaux et prestations bénéficiant du concours du fonds, de l'évaluation financière des programmes en vue de l'inscription au budget des dépenses correspondantes, de la passation des marchés conformément à la réglementation en vigueur, du suivi de l'exécution et de la réception des travaux et des prestations, de la détermination de l'enveloppe des subventions relevant de son domaine de compétences, de l'ordonnancement des dépenses. Chapitre 4. Des organes de gestion. Article 11. Le fonds est administré par deux organes. Le conseil d'administration, la direction générale. Section 1. Le conseil d'administration. Article 12. Alinéa 1. Le conseil d'administration du fonds comprend 12 membres, dont le président. Alinéa 2, outre le président, le conseil d'administration est composé ainsi qu'il suit: un représentant de la présidence de la République, un représentant des services du Premier ministre, un représentant du ministère en charge de la commercialisation du cacao et du café, un représentant du ministère en charge des finances, un représentant du ministère en charge de l'agriculture, un représentant du ministère en charge de la recherche scientifique, un représentant du ministère en charge de l'économie, deux représentants du conseil interprofessionnel, dont l'un pour le cacao et l'autre pour le café, un représentant de l'Office national de commercialisation du cacao et du café, un représentant du personnel élu par ses pairs. Article 13, alinéa 1. Le président du conseil d'administration du fonds est nommé par décret du président de la République pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Alinéa 2, les membres du conseil d'administration du fonds sont nommés par décret du président de la République sur proposition des administrations ou organisations qu'ils représentent pour un mandat de 3 ans, éventuellement renouvelable une fois. Article 14, alinéa 1. Le mandat d'administrateur prend fin par décès ou par démission à la suite de la perte de la qualité ayant motivé sa nomination, par révocation à la suite d'une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction d'administrateur, à l'expiration normale de sa durée. Alinéa 2. Dans les cas prévus à l'alinéa 1 ci-dessus, il est pourvu au remplacement d'un administrateur dans les mêmes formes que sa désignation. Article 15, alinéa 1. 6 mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, le président du conseil saisit la structure qu'il représente en vue de son remplacement. Alinéa 2. Aucun membre ne peut siéger une fois son mandat expiré. Alinéa 3. En cas d'expiration du mandat du président du conseil d'administration, les ministres en charge de la commercialisation du cacao et du café et de l'agriculture saisissent l'autorité investie du pouvoir de nomination. Article 16, alinéa 1. Le président et les membres du conseil d'administration sont soumis aux mesures restrictives et d'incompatibilité prévues par la législation en vigueur. Article 16, alinéa 2. Le président et les membres du conseil d'administration, ainsi que toute autre personne invitée à prendre part aux sessions du conseil, sont en outre astreints à l'obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Article 17, alinéa 1. Les membres du conseil d'administration du fonds ayant, au cours de leur mandat, directement ou indirectement, des intérêts dans une affaire en relation avec le fonds ou ayant un intérêt personnel dans celui-ci, à l'exception d'un contrat de travail pour l'administrateur représentant du personnel, sont tenus d'en informer le conseil d'administration. Alinéa 2, il est interdit au fonds d'accorder un prêt à titre individuel à l'un de ses administrateurs. Article 13, alinéa 1. Le président du conseil d'administration est nommé par décret du président de la République pour un mandat renouvelable une fois, pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Je crois que j'ai déjà lu ces articles. Je vais passer de l'article 17 à l'article 18, alinéa 1. Le président du conseil d'administration bénéficie d'une allocation mensuelle ainsi que des avantages. Le montant de l'allocation mensuelle ainsi que les avantages sont fixés par le conseil d'administration conformément à la réglementation en vigueur. Article 18, alinéa 2. Les administrateurs bénéficient d'une indemnité de cession fixée par une résolution du conseil d'administration dans la limite des plafonds définis par la réglementation en vigueur. Ils peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les cessions sur présentation des pièces justificatives. Article 19, alinéa 1. Le conseil d'administration a les pouvoirs pour définir, orienter la politique générale du fonds et en évaluer la gestion dans les limites fixées par ses missions et conformément à la législation et réglementation en vigueur. À ce titre, il fixe les objectifs et approuve les projets de performance du fonds, adopte le budget accompagné du projet de performance du fonds et arrête de manière définitive les comptes, approuve les rapports annuels de performance et les rapports d'activité, adopte l'organigramme et le règlement intérieur, autorise le recrutement de tout le personnel conformément au plan de recrutement proposé par le directeur général, autorise le licenciement du personnel sous proposition du directeur général, nomme sur proposition du directeur général au poste de responsabilité au rang de sous-directeur, de directeur et assimilé, accepte tout don, legs et subventions, approuve les contrats de performance ou toute autre convention préparée par le directeur général et ayant une incidence sur le budget, autorise toute aliénation des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la réglementation en vigueur, s'assure du respect des règles de gouvernance et commet des audits afin de garantir la bonne gestion du fonds, fixe les rémunérations et les avantages du personnel dans le respect des lois et règlements en vigueur et des prévisions budgétaires fixes le montant de l'allocation et les avantages du président du conseil d'administration, ainsi que le montant des indemnités des membres du dit conseil, conformément à la réglementation en vigueur, fixe les rémunérations mensuelles et avantages du directeur général et du directeur général adjoint dans le respect des lois et règlements en vigueur. Veille à la collecte par le fonds ou par les autres administrations et les organismes compétents des ressources financières. Veille au versement direct et total de ces ressources dans le compte du fonds ouvert auprès de la Banque centrale. Veille à la diligence dans le paiement au fonds des prestations réalisées. Approuve les programmes à financer par le fonds et les budgets correspondants. Veille au respect des plafonds des dépenses du fonds. Veille au contrôle de la régularité des contrats et d'exécution des travaux et des prestations financées par le fonds. Précise les modalités d'affectation des crédits budgétaires au titre de la ligne d'urgence. Alinéa 2, le Conseil peut déléguer au directeur général certains de ses pouvoirs. Article 20, alinéa 1. Le président du conseil d'administration convoque et préside les réunions du conseil. Il veille à l'application de ses résolutions. Alinéa 2. Le président du conseil d'administration peut inviter à titre consultatif toute personne physique ou morale en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour à prendre part aux travaux du comité de gestion. Article 21, alinéa 1. En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration suite au décès, à la démission ou à la défaillance du président, les sessions du conseil d'administration sont convoquées par le ministre chargé des Finances à la diligence du directeur général ou des deux tiers des membres du conseil d'administration. Article 21, alinéa 2. Les sessions du conseil d'administration convoquées conformément à l'alinéa 1 ci-dessus sont présidées par un membre du conseil élu par ses pairs. Article 22, alinéa 1. Sur convocation de son président, le conseil d'administration se réunit obligatoirement au moins deux fois par an en session ordinaire, dont une session consacrée à l'examen du projet de performance et à l'adoption du budget, une session consacrée à l'arrêt des comptes. Alinéa 2, le conseil d'administration peut être convoqué en session extraordinaire sur un ordre du jour précis à la demande de son président ou des deux tiers de ses membres. Alinéa 3, le président du conseil d'administration est défaillant lorsqu'il ne convoque pas au moins deux sessions du conseil d'administration par an. Alinéa 4. En cas de refus de convoquer une session du conseil conformément à l'alinéa 1 ci-dessus, les deux tiers des membres saisissent le ministre chargé des Finances qui convoque le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Article 23, alinéa 1. Les convocations accompagnées des dossiers à examiner sont adressées aux membres du conseil d'administration par tout moyen laissant trace écrite 15 jours au moins avant la date prévue pour la session. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à 5 jours. Alinéa 2, les convocations indiquent l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la session. Article 24, alinéa 1. Tout membre du conseil d'administration empêché peut se faire représenter aux travaux du conseil par un autre membre. Alinéa 2. Aucun administrateur ne peut, au cours d'une même session, représenter plus d'un administrateur. Alinéa 3. Tout membre présent ou représenté à une session du conseil d'administration est considéré comme ayant été dûment convoqué. Alinéa 4. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité simple des membres présents ou représentés, un président de séance. Article 25. Le conseil d'administration examine toute question inscrite à l'ordre du jour, soit par le président, soit à la demande des deux tiers des administrateurs. Article 26. Le secrétariat des sessions du conseil d'administration est assuré par le directeur général du fonds. Article 27, alinéa 1. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à l'ordre de sa session que si les deux tiers, au moins, de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, il l'est pour la convocation suivante, ramenée à la moitié des membres du conseil d'administration. Alinéa 2, chaque membre dispose d'une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Article 28, alinéa 1. Les décisions du conseil d'administration prennent la forme des résolutions. Elles sont signées séance tenante par le président du conseil d'administration ou le président de séance, le cas échéant, et un administrateur. Alinéa 2. Les décisions du conseil d'administration prennent effet à compter de leur adoption. Article 29, alinéa 1. Les délibérations du conseil d'administration font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration ou des séances et le directeur général. Le procès-verbal mentionne, outre les noms des membres présents ou représentés, ceux des personnes conviées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le conseil d'administration à l'occasion d'une session du conseil. Alinéa 2, les procès-verbaux de séance sont consignés dans un registre spécial tenu au siège du fond. Article 30, alinéa 1. Pour l'accomplissement de ses missions, le conseil d'administration peut créer en son sein et en tant que de besoin des comités et des commissions avec des missions spécifiques et dont le nombre ne peut excéder 4. Alinéa 2, les membres des comités ou des commissions bénéficient des facilités de travail et des indemnités dans la limite des plafonds fixés par la réglementation en vigueur. Section 2 de la Direction générale. Article 31, alinéa 1. La Direction générale du Fonds est placée sous l'autorité d'un directeur général, éventuellement assisté d'un directeur général adjoint. Alinéa 2, le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés par décret du président de la République. Article 32, alinéa 1. Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés pour un mandat de 3 ans, éventuellement renouvelable 2 fois. Alinéa 2, le renouvellement prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est tacite. Alinéa 3, dans tous les cas, les mandats cumulés du directeur général et de son adjoint ne peuvent excéder 9 ans. Article 33. Le directeur général et le directeur général adjoint sont soumis aux mesures restrictives et d'incompatibilité prévues par la législation en vigueur. Article 34, alinéa 1. Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur général est chargé de l'application de la politique générale et de la gestion des fonds. À ce titre, il est chargé notamment d'assurer la direction technique, administrative et financière du fonds, d'élaborer le programme d'activité annuelle du fonds, de préparer le projet de budget et de performance et de produire le compte administratif ainsi que les rapports, le rapport annuel de performance, d'assurer le secrétariat des travaux du conseil d'administration auquel il prend part avec voix consultative, de préparer les résolutions du conseil d'administration et veiller à leur exécution, de proposer un plan de recrutement du personnel au conseil d'administration, de nommer le personnel sous réserve des compétences dévolues au conseil d'administration, de recruter le personnel temporaire, occasionnel et saisonnier selon les nécessités de service et conformément à la réglementation en vigueur, de licencier le personnel temporaire, occasionnel et saisonnier, conformément à la réglementation en vigueur, de gérer les biens meubles et immeubles corporels ou incorporels du fonds dans le respect de ses missions et des pouvoirs du conseil d'administration, de suivre les opérations de collecte et de reversement des ressources dans les comptes bancaires du fonds, d'apposer le visa sur les projets de contrat avant leur signature par l'ordonnateur, au titre du contrôle et de la régularité des contrats, de la disponibilité des ressources et de l'éligibilité des dépenses. De procéder au contrôle de la conformité des dépenses supportées par le fonds, d'assurer le règlement des prestations, d'exécuter le financement des opérations spéciales et stratégiques de l'État prévues à l'article 4 du présent décret, de fournir périodiquement, au moins une fois par trimestre, aux différents ordonnateurs, chacun en ce qui le concerne, les informations sur le suivi de ces opérations financières en faisant le lien entre la programmation et la réalisation, de représenter le fonds dans tous les actes de la vie civile et en justice. Alinéa 2. Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général adjoint ou à certains responsables du fonds. Article 35, alinéa 1. Le directeur général ou son adjoint éventuellement est responsable devant le conseil d'administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l'image du fonds. Alinéa 2, dans les cas prévus à l'alinéa 1 ci-dessus, le président du conseil d'administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le directeur général ou son adjoint est entendu. Alinéa 3, le dossier comprenant les griefs est transmis au directeur général ou à son adjoint, 10 jours au moins avant la date prévue de la session extraordinaire, alinéa 4, le débat devant le conseil d'administration est contradictoire, alinéa 5, le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins 2/3 de ses membres. Aucune représentation n'est admise dans ce cas. Article 36, alinéa 1. Le conseil d'administration peut prendre à l'encontre du directeur général ou du directeur général adjoint les sanctions suivantes. Suspension de certains pouvoirs, suspension de ses fonctions pour une période limitée avec effet immédiat, suspension de ses fonctions avec effet immédiat assortie d'une demande de révocation adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Alinéa 2. Les décisions sont transmises pour information au ministre chargé de la commercialisation du cacao et du café et de l'agriculture, ainsi qu'au ministre chargé des Finances, à la diligence du président du conseil d'administration. Article 37. En cas de suspension des fonctions du directeur général ou du directeur général adjoint, le conseil d'administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche du fonds. Article 38, alinéa 1. En cas d'empêchement temporaire du directeur général, l'intérim est assuré par son adjoint, alinéa 2. Dans le cas où l'administration du fonds n'est pas pourvue d'un directeur général adjoint, l'intérim est assuré par un responsable ayant au moins rang de directeur désigné par le directeur général. Article, alinéa 3 de l'article 38, en cas de vacance du poste du directeur général pour cause de décès, de démission ou de mandat arrivé à échéance, le conseil d'administration prend toutes les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement du fonds en attendant la nomination d'un nouveau directeur général par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Chapitre 5. Du personnel. Article 39. Font partie du personnel du fonds. Le personnel recruté par le fonds, les fonctionnaires en détachement, les agents de l'État relevant du code du travail mis à la disposition du fonds, le personnel occasionnel, saisonnier et temporaire, dont les modalités de recrutement, de rémunération et de rupture de contrat sont fixées par les statuts du personnel. Article 40. Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'État relevant du code du travail mis à la disposition du fonds relèvent pendant toute la durée de leur emploi de la législation du travail, sous réserve des dispositions du statut général de la fonction publique et des statuts spécifiques relatifs à la retraite, l'avancement et à la fin du détachement. Article 41, alinéa 1. Les fonctionnaires en détachement et les agents de l'État relevant du code du travail sont, quel que soit leur statut d'origine, pris totalement en charge par le fonds. Alinéa 2, la prise en charge visée à l'alinéa 1 ci-dessus concerne le salaire et ses accessoires, les indemnités, les primes et les autres avantages servis par le fonds. Article 42, alinéa 1, la responsabilité civile et ou pénale du personnel du fonds est soumise aux règles de droit commun. Alinéa 2, les conflits entre le personnel et le fonds relèvent de la compétence des juridictions de droit commun. Article 43, l'acte de nomination du directeur général et du directeur général adjoint ne leur confère pas la qualité d'employé du fonds, à moins que les intéressés ne soient préalablement dans une relation contractuelle avec le fonds. Chapitre 6, des dispositions financières. Section 1. Des ressources. Article 44, alinéa 1. Les ressources financières du fonds sont constituées par la redevance à l'exploitation du cacao et du café et ou issues de la transformation du dit produit, les produits issus des amendes résultant notamment de l'exportation des produits de mauvaise qualité, les subventions de l'État, les fonds provenant de conventions et accords internationaux, le produit de ces placements, des contributions diverses, des dons et legs, toute autre ressource qui pourrait lui être affectée par la réglementation en vigueur. Alinéa 2. Les ressources visées à l'alinéa 1 ci-dessus, collectées par le fonds ou par les administrations et organismes compétents, sont versées totalement et directement dans un sous-compte de fonds ouvert, du fonds ouvert auprès de la Banque centrale. Alinéa 3, la quote-part des ressources provenant de la redevance à l'exportation du cacao et du café représente au minimum 55% de la dite redevance. Article 45. Les ressources visées à l'article 44 ci-dessus font partie intégrante du budget du fonds. Article 46, alinéa 1. Les ressources financières du fonds sont des deniers publics gérés suivant les règles de la comptabilité publique. Alinéa 2. Toutefois, les ressources issues de la coopération et des partenariats divers sont gérées suivant les modalités prévues par les conventions et accords irrelatifs. Section 3. Du budget et des comptes. Article 47. L'exercice budgétaire du fonds commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Article 48, alinéa 1. Le projet de budget annuel assorti du projet de performance, y compris ses documents annexes, ainsi que les plans d'investissement du fonds, sont préparés par le directeur général et adoptés par le conseil d'administration. Alinéa 2, le budget est présenté sous forme de sous-programme cohérent avec les objectifs de politique publique nationale ou sectorielle. Alinéa 3, le budget du fonds doit être équilibré en recettes et en dépenses. Toutes les recettes et les dépenses du fonds sont inscrites dans le budget. Article 49, alinéa 1. Le budget du fonds est adopté par le conseil d'administration. Alinéa 2, le budget adopté par le conseil d'administration est transmis pour approbation au ministre chargé des Finances. Alinéa 3, le budget est rendu exécutoire dès son adoption par le conseil d'administration sous réserve des dispositions contraires des lois et règlements en vigueur. Article 50. Les comptes du fonds doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière. Article 51, alinéa 1, le fonds tient trois types de comptabilité. Une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses, une comptabilité générale, une comptabilité analytique. Alinéa 2, le fonds peut tenir en sus d'autres types de comptabilité. Article 50, alinéa 1. Le directeur général établit au terme de chaque exercice budgétaire les états relatifs à la situation des finances, un inventaire des immobilisations, l'état des créances et des dettes, le rapport d'exécution du budget de l'exercice et un rapport annuel de performance. Alinéa 2. Les états visés à l'alinéa 1 ci-dessus font l'objet d'une présentation au cours de la session du conseil d'administration consacrée à l'arrêt des comptes. Section 3. Du contrôle et du suivi de la gestion. Article 53. Le fonds est soumis au contrôle des organes compétents de l'État. Article 54, alinéa 1. Un agent comptable et un contrôleur financier spécialisé sont nommés auprès du fonds par arrêté du ministre chargé des finances. Alinéa 2. L'agent comptable et le contrôleur financier spécialisé exercent leur mission conformément aux lois et règlements en vigueur, sauf dispositions contraires des conventions internationales dûment ratifiées par le Cameroun et publiées. Article 55, alinéa 1. L'agent comptable recouvre, enregistre toutes les recettes et effectue toutes les dépenses du fonds. Il s'assure de la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par les responsables visés à l'article 7 ci-dessus. Alinéa 2, le paiement des dépenses autorisées s'effectue uniquement auprès de l'agent comptable du fonds. Article 56, le contrôleur financier spécialisé est chargé du contrôle des actes générateurs de recettes et des dépenses pris soit par les ordonnateurs visés à l'article 7 du présent décret, soit par les ordonnateurs délégués. Il est chargé, d'une manière générale, du contrôle de l'exécution du budget. Article 57, alinéa 1. Le contrôleur financier spécialisé présente au conseil d'administration le rapport d'exécution du budget du fonds. Alinéa 2. Le rapport visé à l'alinéa 1 ci-dessus est transmis au ministre chargé des Finances, au ministre chargé de la commercialisation du cacao et du café, au ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'au directeur général du fonds. Article 58, alinéa 1. Le directeur général établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit également les inventaires ainsi que l'état des créances et des dettes. Alinéa 2, le directeur général présente au conseil d'administration et selon les cas au ministre chargé des Finances, au ministre chargé de la commercialisation du cacao et du café et au ministre de l'Agriculture les comptes administratifs et de gestion, ainsi que les rapports annuels de performance dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Article 59, alinéa 1. Le suivi de la gestion et des performances du fonds est assuré par le ministre chargé des Finances. À cet effet, le fonds lui adresse tous les documents et informations relatifs à la vie du fonds qui doivent être tenus en vertu du droit commun à la disposition des administrateurs et notamment les rapports d'activité, les rapports du contrôleur financier spécialisé ainsi que les états financiers annuels. Alinéa 2, le fonds publie chaque année une note d'information présentant l'état de ses actifs et de ses dettes et résumant ses comptes annuels dans un journal d'annonce légale et dans la presse nationale. Article 60, alinéa 1. Le ministre chargé des Finances peut demander la production d'états financiers pour une périodicité inférieure à un exercice budgétaire. Alinéa 2. Des audits indépendants peuvent être demandés par le conseil d'administration, le ministre chargé des Finances, le ministre chargé de la commercialisation du cacao et du café, ainsi que le ministre chargé de l'Agriculture. Chapitre 7. Des mesures conservatoires. Article 61. Alinéa 1. Nonobstant les dispositions du présent décret, en cas de crise grave susceptible de mettre en péril les missions d'intérêt général, ces missions ou les objectifs sectoriels du gouvernement, un administrateur provisoire peut être désigné par décret du président de la République en lieu et place des organes dirigeants du fonds. Alinéa 2, l'acte portant nomination de l'administrateur provisoire précise ses attributions et la durée de son mandat, laquelle, en tout état de cause, ne saurait excéder 1 mois. Alinéa 3, au terme de son mandat, l'administrateur provisoire est tenu de produire un rapport d'activité présentant tous ses actes de gestion. Chapitre 8, de la gestion du patrimoine. Article 62. Le patrimoine du fonds est constitué de biens meubles et immeubles qui lui sont affectés par l'État. Alinéa 2, les biens du domaine public, du domaine national et du domaine privé de l'État transférés en jouissance au fonds conformément à la législation domaniale conservent leur statut d'origine. Alinéa 3, les biens du domaine privé de l'État transférés en propriété au fonds sont intégrés de façon définitive dans son patrimoine. Alinéa 4, les biens faisant partie du domaine privé du fonds sont gérés conformément au droit commun. Article 63, alinéa 1, sous le contrôle du conseil d'administration, la gestion du patrimoine du fonds relève de l'autorité du directeur général. Alinéa 2, la gestion du patrimoine visé à l'alinéa 1 ci-dessus concerne l'acquisition des biens et leur aliénation. Article 64, alinéa 1, en cas d'aliénation d'un bien du fonds, le directeur général requiert l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il tient à jour au conseil d'administration la situation du patrimoine qui fait l'objet d'un examen à l'occasion d'une de ses sessions. Alinéa 2, l'autorisation du conseil d'administration se fait au moyen d'une résolution adoptée par au moins 2/3 de ses membres. Chapitre 9, des marchés publics, article 65. Le fonds est assujetti, alinéa 1, le fonds est assujetti aux dispositions du code des marchés publics, alinéa 2. Le directeur général est l'autorité contractante de tous les rapports des marchés publics. Alinéa 2, le directeur général est l'autorité contractante de tous les marchés publics. Article 66, la commission interne de passation des marchés créée auprès du fonds s'assure des règles de transparence, de concurrence et de juste prix. Chapitre 10, des dispositions finales, des dispositions diverses et finales. Article 67, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret numéro 2006/85 du 9 mars 2006 portant organisation et fonctionnement du Fonds de développement des filières cacao et café. Article 68, le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Yaoundé, le 14 janvier 2025, signé le président de la République, Paul Biya.
Thank you very much, Valérie Di Cosimaro and George Kellon.
The 5 to 6 p.m. is 16 minutes of news and information about major happenings in the nation. Focus of the day. Sports, world news, in-depth report, investigative news report, the interview, the 5 to 6 p.m. guest, and much more on the radio network of the CRTV.
À 7h46, madame, monsieur, vous êtes à l'écoute de la CRTV Poste National. Le 17-18 se poursuit par ce communiqué des services du Premier ministre. La cérémonie de présentation des vœux de nouvel an à son Excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, aura lieu le mercredi 15 janvier 2025 à partir de 16h à l'esplanade de l'immeuble abritant son cabinet. Heure limite d'arrivée, 15h30, c'est signé du directeur de cabinet, Balungeli Confiance Ebony.
This press release, the New Year wishes ceremony to His Excellency, the Prime Minister, Head of Government, is scheduled to take place on Wednesday, the 15th of January 2025, as from 4 p.m. at the Esplanade of His Cabinet. And its latest time of arrival is 3:30 p.m. Signed, the Director of Cabinet, Balungeli Confiance Ebony.
Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministère de l'Eau et de l'Énergie. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Esomba, informe le public que le réseau interconnecté Sud connaît actuellement des perturbations dans la fourniture en énergie électrique. Ces perturbations sont en partie dues à une baisse de production de l'ordre de 70 MW dans les centrales hydroélectriques de Sanloulou et d'Edeya. En cause, le faible remplissage des barrages réservoirs pendant la saison des pluies de 2024 qui a entraîné un déficit hydrologique de plus de 2 milliards de mètres cubes comparé à l'année 2023. Par ailleurs, le débit interannuel communément observé pendant la période d'étiage qui contribue à renflouer le volume d'eau dans les barrages affiche une baisse inédite de 50%. Pour ce qui est de la centrale hydroélectrique de Meumvele, située sur le fleuve Ntem qui ne dispose pas encore d'un barrage de retenue en amont, la production est passée de 200 MW en novembre à 35 MW actuellement du fait d'un étiage particulièrement sévère. Cette situation hydrologique défavorable découle des changements climatiques dont le monde entier est victime. En outre, l'arrêt de production des centrales thermiques de Kribi et Dibamba depuis septembre 2024 aggrave ce déficit. Face à cette situation, le gouvernement, en collaboration avec les acteurs du secteur, a pris les mesures suivantes pour atténuer ces perturbations et garantir un retour à la normale dans les meilleurs délais. L'optimisation des centrales de production existantes en sollicitant la mise à disposition de leur pleine capacité, le renforcement de l'approvisionnement en combustible des centrales thermiques du réseau interconnecté Sud, la mise à contribution des industries via le réaménagement de leurs plages, du reste de consommation et leur effacement pendant les périodes de forte demande. Du reste, sous la houlette du gouvernement, les négociations se poursuivent en vue du règlement de la dette de la société Eneo envers ses fournisseurs, dont les sociétés KPDC, DPDC. Tout en regrettant les désagréments causés par cette situation, le ministre de l'Eau et de l'Énergie remercie les populations pour leur patience et leur compréhension face à ce cas de force majeure. Il les rassure de la détermination et de la mobilisation totale du gouvernement dans la recherche de solutions pérennes telles qu'instruites par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Un communiqué signé de Georges Elundu Esomba, Gaston Elundu Esomba, ministre de l'Eau et de l'Énergie. Madame Abena Ondoa, née Obama, Marie-Thérèse, a reçu ce 11 Ce jour, à 11h, à son cabinet, une délégation de la Team Europe, conduite par le chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, son Excellence Jean-Marc Châtaignier, dans le cadre du renforcement des actions visant la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Au cours des échanges, plusieurs aspects ont été évoqués, parmi lesquels la lutte contre les violences basées sur le genre, la mise en œuvre de la politique nationale genre, avec l'implémentation de la budgétisation sensible au genre, avec une grande sensibilisation des administrations publiques et privées, des communautés et des leaders de tous bords sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes. Au terme de cette audience, les parties ont convenu de poursuivre et de renforcer la collaboration existante. À cet effet, des projets arrêtés de commun accord seront mis en œuvre au cours de l'année 2025. Une note d'information signée du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille.
Mrs. Bena Ondoa, née Obama Marie Therese, today at 11 a.m. received in her cabinet a delegation from Team Europe led by the head of the European Union delegation in Cameroon, His Excellency Jean-Marc Châtaignier, within the framework of strengthening actions to promote gender equality. A number of issues were raised during the discussions, which include fighting against gender-based violence, implementing the national gender policy with the rollout of gender-responsive budgeting, and raising awareness of gender equality issues among public and private administrations, communities, and leaders of all walks of life. At the end of the audience, the parties agreed to continue strengthening existing collaboration, and to this end, jointly agreed projects will be implemented in 2025. Signed, the Minister of the Promotion, Women's Promotion and the Family, Marie Therese Abena Ondoa. And the Minister of Water and Energy, Gaston Elundu Isumba, hereby informs the public that the Southern Interconnected Grid is currently experiencing disruptions in the supply of electrical energy. These disruptions are partly due to a production shortfall of about 70 megawatts at the Songlulu and Edea Hydro Power stations. This is the result of the low filling of reservoir dams during the 2024 rainy season, which led to a hydrological deficit of over 2 billion cubic meters compared with 2023. And in addition, the interannual flow commonly recorded during the low water level period, which helps to replenish the water volume in the dams, registered an unprecedented drop of 50%. With regard to the Mvele hydropower plant on Rivantem, which does not yet have its own upstream reservoir, production dropped from 200 megawatts in November to 35 megawatts currently due to extremely poor water levels. This unfavorable hydrological situation is a result of climate change, which is affecting the whole world. In addition, the shutdown of the Kribi and Dibamba thermal power stations since September 2024 is further compounding this deficit. To address the situation, the government, in collaboration with sector stakeholders, has taken the following measures to mitigate the disruptions and ensure a swift return to normal operation: optimization of existing generation plants by making their full capacity available, boosting of fuel supplies to thermal power stations on the Southern Interconnected Grid, involvement of the industry by reorganizing their consumption periods and switching them off during periods of high demand. Moreover, under the government's leadership, negotiations are ongoing with a view to settle ENIO's debt with its suppliers, including KPDC/DPDC. While expressing regrets about the inconvenience caused by the situation, the Minister of Water and Energy thanks the population for their patience and understanding in the face of this case of force majeure. He reassures them that the government is determined and fully committed to finding lasting solutions as instructed by the head of state, His Excellency Paul Biya. Signed, Gaston Elundu Isumba, Minister of Water and Energy.
Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, par ailleurs président du comité interministériel chargé de la mise en œuvre de l'application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde Aigle, a l'honneur d'informer les secrétaires généraux, les directeurs des affaires générales et les directeurs de ressources humaines des administrations publiques qu'il organise à leur intention un atelier de sensibilisation et d'imprégnation les jeudi 16 et vendredi 17 janvier 2025 à l'hôtel Copacabana Beach de Kribi. Ce séminaire se déroulera sous le thème « Innovation et performance dans la gestion des ressources humaines de l'État », présentation de Aigle. Il vise à accompagner les hauts responsables de la chaîne de gestion des ressources humaines de l'État dans l'appropriation de ce logiciel destiné à moderniser la gestion des personnels de l'État et de leurs soldes. L'atelier a pour objectif d'informer les participants sur la nécessité d'adopter la nouvelle application pour une gestion optimale des ressources humaines de l'État et de la solde, de clarifier le mécanisme des modules Aigle et les procédures d'intégration afin d'assurer une connaissance exhaustive et limpide du système, de consolider les aptitudes des dirigeants pour superviser la mise en place de la plateforme et assurer son application quotidienne au sein de leur service. Aussi, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative comptait-il sur la présence et l'assiduité des participants ainsi invités en vue d'une parfaite appropriation des fonctionnalités de cette nouvelle application, si signé Joseph Lé. Et puis le directeur de l'Office du baccalauréat du Cameroun informe les communautés éducatives nationales et internationales ainsi que les lauréats des baccalauréats de l'enseignement secondaire général et technique, des brevets de techniciens et des brevets professionnels, toutes séries confondues, de la session 2024, que les diplômes sont disponibles dans les 10 antennes régionales de l'OBC. Il invite par conséquent les 10 lauréats à procéder au retrait gratuit de leur parchemin muni d'une pièce d'identification en cours de validité. Cette gratuité court jusqu'au 31 décembre 2025. Pour toute autre information complémentaire, bien vouloir se rapprocher des antennes régionales locales de l'Office du baccalauréat du Cameroun.
Get the latest news in Cameroon, Africa, and the world only on the 5 to 6 p.m.
Bienvenue dans la partie magazine du 17-18. Les conséquences des changements climatiques sur le plan national et international sont sans appel. Si rien n'est fait pour contrer le phénomène, nous allons tous périr. Ngou Henry a joint au téléphone le directeur général adjoint de l'Observatoire national sur les changements climatiques, Forgab Patrick, l'invité du 17-18.
And during the ceremony to present New Year wishes to the head of state by the diplomatic corps, President Paul Biya reiterated the need for action against climate change. This is because of the severe and far-reaching consequences on the planet. And to shed light on this and actions taken to fight climate change is the Deputy General Manager of the National Observatory on Climate Change, Forgab Patrick, who is our guest on the 5 to 6 p.m. Follow his telephone chat with Ngou Henry, where he begins by stating the causes and consequences of climate change. This right after the break.
Principally, the causes of climate change are linked to the increased concentration of greenhouse gases in the atmosphere, which for most cases lead to temperature increase or global warming. And since 1950 to date, the world has been fighting to bring the temperature increases, which are presently situated between 1.5 and 2 degrees, to below 1.5 degrees. And the greenhouse gases are generally generated from anthropogenic activities, that is human activity in the agricultural sector, energy sector. You can also talk about industrialization and industry byproducts. These are things that directly contribute to the increase in global temperature. Of course, we have the waste sector where a lot of the gases are generated. You know, with dump sites here and there, from those dump sites, we have methane that is produced, which also has a very high heating potential, and these gases that constitute the greenhouse gases causing global warming. You see, when temperatures have increased, and this has been recorded for a period of over 30 years, we can be talking of climate change. If there's a lot of variability in precipitation for over 30 years, we can talk of climate change. Now, they have a negative repercussion on the various sectors of development in Cameroon. Its manifestation can go from extreme weather events like floods, like drought, like heat waves, landslides, perturbation of the climate system, including here of what we will call the start date, because it no longer can tell when the season is starting or when it is ending, or how long it will be.
How does climate change affect people's health?
Health here can either be affected by temperature or excessive precipitation. If you take the situation where temperatures are increasing and accompanied by excessive wind, you will realize that man can suffer from respiratory diseases, cough and catarrh. Man can suffer from ocular diseases like conjunctivitis affecting the eyes. A lot of heat waves are some of the consequences, and which may come along with a lot of discomfort, especially for the elderly people or for women in menopause. It impacts the young children as well. Now, it also comes along with meningitis, which is very recurrent. With excessive precipitation, which may lead to flood, the issue of standing water comes along with waterborne diseases such as cholera, dysentery, typhoid, and of course, stagnant waters also become a breeding ground for malaria-causing pathogens.
During the New Year wishes ceremony by the diplomatic corps last Friday, the head of state, President Paul Biya, called for actions against climate change. What concretely can be done, and what are the benefits of taking the action now?
Climate change is real, and climate change requires a lot of adaptation and a lot of mitigation. For the case of Cameroon, when it comes to adaptation, we want to see how vulnerable the various sectors of socioeconomic development are to climate perturbation. The more sectors are sensitive to climate perturbation, or they are exposed to climate perturbation, or the people's capacity to adapt to the climate perturbation is weak, there is need to reinforce their capacity and their resilience. If you look at the water sector, which water is necessary for the various sectors, including agriculture and principally, if we cannot do something to reduce the stress level of water on the agricultural sector, it may be difficult for the community. Extreme climate weather situations come along with a lot of destruction, with a lot of losses and damages to people who may not be at the origin of the phenomenon. When you hear of excessive precipitation and flood, what is the local population's cost in Cameroon at this point in time? So you realize that what the head of state was calling the international community to do is to support Cameroon in their adaptation strategy, adaptation action, so that the people can be able, whether you're in the agricultural sector, whether in the health sector, where there are these losses and damages, that the international community should help Cameroon to reduce some of the shock.
The Deputy Director General of the National Observatory on Climate Change, Patrick Fogap, thanks for having you on the 5 to 6 p.m. today.
You're welcome, and the pleasure was mine.
Before we end the 5 to 6 p.m., once again, our top story.
Une seule information à retenir du 17-18, le président de la République, Paul Biya, a signé des textes portant réorganisation de la filière cacao-café et un autre texte sur le financement de la réalisation des routes portuaires à Kribi.
The 5 to 6 p.m. was a presentation of Clarice Njanga and Manka Ambe under the supervision of the editor-in-chief, Florence Mercure.